intervenez notamment au Libéria.
Au Libéria, dans le projet, l'activité où nous intervenons, les troubles mentaux qui sont les plus fréquents sont les psychoses chroniques en premier lieu. Ils sont suivis par des troubles d'humeur dont la dépression est majeure. Et puis, il y a la schizophrénie aussi qui vient en troisième lieu. Toutes ces pathologies que j'ai mentionnées, on les trouve en fait en cas sévère. Donc, qui s'explique que les patients nous viennent un peu en retard pour se faire soigner. Et suite à des effets tels que la stigmatisation et aussi à l'accès de soins qui est limité.
Sonia, est-ce que dans votre zone, ce sont les mêmes troubles aussi que vous rencontrez souvent dans le Sahel où vous intervenez?
Pas vraiment, vu le contexte de Sahel qu'on va aborder à un certain moment, vu tout ce qui est violence et changement de structure socio-culturelle, le plus fréquent de troubles mentaux qu'on trouve au terrain, on a tout ce qui est le sphère de stress post-traumatique qui est en relation étroite avec la violence, le trauma en général, dépression et l'anxiété et à différents niveaux de modéré, léger jusqu'à sévère aussi. Et bien sûr, on a le sphère psychotique, tout ce qui est psychose avec ses différentes formes. On a ça aussi dans la région.
Clément, vous avez mentionné le fait que les malades viennent souvent un peu en retard lorsque la maladie a un stade avancé. Qu'est-ce qui explique ça?
Comme j'ai déjà dit, il y a la stigmatisation que nous rencontrons dans nos activités. Les malades sont traités comme des fous, on va y revenir après. Ils ne sont pas considérés, donc on pense que la maladie mentale ne se soigne pas. Il y a des malades, ce sont les familles qui devraient les accompagner ou bien le comité qui devrait les orienter pour les soins et même les traitements qui peuvent être donnés. En tout, en fait, on les laisse à eux-mêmes jusqu'à ce que la maladie se développe dans la catégorie sévère. Aussi, deuxième chose que j'ai dit, il y a l'accès aux soins. Il faut bien dire qu'il n'y a pas beaucoup de structures sanitaires qui offrent en fait les traitements ou bien la prise en charge pour les troubles mentaux. Et là, ça limite les malades, même qui sont présents, qui veulent se faire soigner. S'il n'y a pas des agents qui sont formés, s'il n'y a pas des institutions qui ont des services, donc il n'y a pas de services qui vont être donnés, il n'y a pas de traitements en fait, qui vont être donnés. Donc, ce que nous pouvons trouver, il nous arrive un peu tardivement avec tous ces problèmes donc, qui sont là.
Sonia, vous rencontrez le même problème dans le Sahel. Les gens ils viennent un peu en retard, la maladie est négligée aussi.
Oui, pas mal de points que Jean-Clément a présentés, on les partage, tout ce qui est partie culturelle de stigmatisation, marginalisation, des troubles mentaux, la méconnaissance dans la communauté aussi qui nécessite la sensibilisation et l'appui, la partie disponibilité de traitement, et c'est pas seulement disponibiliser les médicaments pour donner, parce que aussi les médicaments ça coûte trop cher, ils sont souvent des importations de l'extérieur, mais aussi avoir le professionnel de la santé et de la santé mentale formé pour détecter les cas, pour offrir les soins, donc avoir cette composante ressources humaines formées, tout ce qui est structure d'hospitalisation qui sont trop lacunaires dans pas mal de pays. Je prendrai l'exemple de Mali, on a un seul service psychiatrique, c'est la même chose un peu au Niger, la même chose aussi au Burkina, donc c'est pas facile d'accéder.
Sans compter l'aspect sécuritaire.
Et avec tout ça, on a l'aspect sécuritaire qui touche trop le déplacement soit des patients pour venir chercher le soin, vu l'instabilité, l'insécurité, ces risques qu'ils sont en train de parcourir pour franchir certaines zones, pour arriver au plus proche centre de santé, avec le risque que ce centre de santé n'offre pas le service, mais aussi pour le staff médical, MSF ou aussi de la ministère de la Santé qui doivent se déplacer et c'est pas facile pour eux pour partir à ces zones-là. Donc tout ça mélangé ensemble, ça rend l'accès aux services tardif pour ces patients.
À quoi peuvent être dus ces troubles mentaux?
En général, les troubles mentaux ont des multitudes de causes. On a des causes biologiques, un petit peu la hérédité pour certains troubles mentaux et psychiatriques. Des études ont montré ça. Aussi, t'as la partie conditions économiques aussi, l'environnement, et ici, tu as l'environnement de Sahel, la circonstance culturelle maintenant, et ces conflits qui aggravent la situation, certes. Tu as les qualités individuelles de la personne, ses aptitudes de gérer ses pensées, ses émotions, sa cognition, son comportement. Et aussi tout ce qui est soutien familial, environnemental. C'est tout ça qui sont plus ou moins les déterminants de troubles mentaux, comment une personne peut avoir des troubles mentaux. C'est un peu de tout, on va dire.
Mais est-ce qu'au Sahel, avec les conflits qui durent depuis des années, il y a une certaine incidence de ces situations sur la santé mentale des populations?
Au Sahel, ça s'aggrave plus avec le contexte instable qui aggrave le sentiment de stress, d'insécurité, de perte, des pertes humaines, donc ce qui engendre les deuils, la dépression suite à des pertes, mais aussi des pertes de revenus, des pertes de biens. Tout ça ensemble, ça donne cette situation un peu plus complexe. Et pour cela, les chiffres, les nombres de patients, les nombres de personnes qui développent des réactions psychologiques suite à des événements traumatiques, conflits, crises humanitaires, selon les données de l'OMS, ça grave. On parle d'un pourcentage de 22%. Alors, dans une communauté qui vit plus ou moins dans un contexte aussi stable, ces chiffres ne dépasse pas le 12%. Donc plus les personnes vivent dans un contexte instable, insécuritaire, des pertes, de mauvais traitements, plus ça les expose à développer plus de réactions psychologiques.
Clément, c'est vrai que le Libéria n'est pas inclus dans le Sahel, mais c'est un pays qui a vécu une longue guerre civile. Est-ce que vous pensez que les traumatismes que les gens ont vécu dans ce pays contribuent aussi à la prévalence des troubles mentaux?
Tel que Sonia l'a bien dit, en fait, si on regarde les causes des troubles mentaux, ils sont multifactoriels. Et là, on parle des facteurs biologiques, donc ça c'est un peu la génétique qui concerne la vie des personnes, mais il y a aussi l'environnement et le social. Donc en remontant derrière, le Libéria a connu pas mal d'instabilité avec les guerres civiles qui se sont passées. Il y a aussi l'épidémie d'Ebola qui a aussi causé un peu de détresse. Donc tout ça, les populations ont vécu dans l'environnement qui était d'instabilité, d'insécurité, où la vie économique aussi était un peu perturbée. Donc tout ça sont des facteurs qui, si on les met ensemble aussi avec qui d'autres choses de sources biologiques, peut être déclenchant pour quelqu'un qui est déjà susceptible pour développer la maladie mentale. Donc, c'est pas bien comme le Sahel, mais comme tu l'as bien dit, l'histoire du Libéria aussi, il a ces facteurs, en fait, qui négativement ont impacté la population déjà qui pouvait développer les troubles mentaux.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Sonia et Clément, vous avez tous deux développé des facteurs qui peuvent favoriser le développement des troubles mentaux. Mais est-ce qu'il y a une catégorie des personnes qui sont beaucoup plus exposées par rapport à d'autres?
Non, tout le monde est susceptible de développer des troubles mentaux. Comme on a bien dit, tu dois avoir une prédisposition génétique, héréditaire, environnementale, personnelle, tout ce paquet avec ce que tu es en train de vivre. Donc tout le monde, à un certain moment, on peut développer des réactions psychologiques et qui peut amener à des troubles mentaux. Donc, il n'y en a pas une différence entre hommes ou femmes, enfants, adolescents ou adultes. Tout le monde est capable d'avoir des troubles mentaux. Mais après, on a des groupes qu'on les appelle les groupes les plus vulnérables.
Quelles sont les personnes qu'on retrouve dans cette catégorie des personnes les plus vulnérables?
Souvent, ce sont des gens avec certains circonstances, avec certains critères, on va dire, que ça les expose plus, ça leur donne plus de risques de développer des troubles mentaux. Par exemple, dans le contexte de Sahel, souvent c'est les femmes. Vu que les femmes peuvent être susceptibles d'une manière trop directe parce qu'elles sont affectées par la violence, avec le mauvais traitement, tout ce qui est abus, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est violence basée sur le genre, et après indirectement sur tout ce qui est accessibilité aux services de soins, tout ce qui est réduction de ressources, qui ne leur permet pas d'accéder aux soins médicaux, entre autres aux soins de la santé mentale. Donc t'as cette partie-là. Et après, t'as tout ce qui est enfant et adolescent, tout ce qui est moins de 17 ans.
Qu'est-ce qui peut expliquer que ces enfants et ces adolescents soient plus exposés, plus vulnérables aux troubles mentaux?
Déjà, parce que souvent, culturellement, on va dire, tous les moins de 17 ans, on ne les considère pas comme des êtres humains par entière. On te dit, mais c'est un enfant, il ne comprend rien. Mais non, à peine il est adolescent, il n'arrive pas à se cerner. Ah, c'est un enfant gâté, pour cela, il se comporte comme ça. Donc, on n'a jamais cette vision culturelle que les enfants et les adolescents aussi peuvent sentir et vivre la situation différemment que nous. Que ces enfants et ces adolescents sont en train de sentir ce stress, cette panique, ils sont en train de vivre la perte différemment que nous, les adultes, ils sont en train de vivre ces menaces de violence différemment que nous. Donc, du coup, on ne les voit pas comme susceptibles de développer des réactions psychologiques.
Avez-vous des chiffres?
Dans nos chiffres des années 2020, plus que 69% de nos patients sont des femmes et plus que 20% de nos patients sont moins de 17 ans déjà. Après, on a une catégorie un petit peu transversale, c'est les individus, c'est les personnes avec des handicaps.
Des personnes avec quel genre d'handicap?
Des handicaps moteurs, des handicaps intellectuels, des déficiences intellectuelles. Ces personnes aussi sont une autre groupe plus vulnérable aussi, qui peuvent développer des réactions psychologiques dues à leurs problèmes au préalable, mais qui ça va s'aggraver et s'intensifier dû au contexte dans lequel ils sont en train de vivre, vu qu'ils n'accèdent plus aux services, vu qu'ils n'ont plus les soins qu'ils ont l'habitude d'avoir, et vu que tout le monde, ils s'intéressent à eux-mêmes dans ces moments de détresse, donc ils ne leur portent pas une grande tension. Mais mis à part à tout ça, nous tous, nous pouvons développer des problèmes psychologiques. Il suffit qu'on soit dans un moment qu'on n'arrive pas à gérer nos sentiments, nos émotions, nos stress, et ça pourra se déclencher.
Nous tous, nous sommes susceptibles de développer des troubles mentaux, mais c'est une réalité qui est un peu méconnue en Afrique, où la plupart des personnes qui ont des troubles mentaux sont automatiquement assimilées à des fous. Clément, par rapport à ce que Sonia dit, c'est pas vrai alors?
En fait, les fous n'existent pas. Donc, il n'y a que les malades qui souffrent des troubles mentaux. Malheureusement, c'est déplorant que ce langage en fait, des fous est devenu d'usage banal, difficile donc, dans la population. Et c'est l'une des choses qui contribue à la stigmatisation des personnes malades. Donc la folie n'existait pas. C'est la maladie qui peut se traiter. On peut suivre et on peut prendre en charge de la personne. Et la personne peut retrouver sa vie normale ou être accompagnée à vivre une vie qui est comme la vie qu'elle avait avant. Donc c'est ce qui arrive dans nos messages de sensibilisation que nous faisons dans nos activités, de lutter contre en fait l'usage des langages négatifs tels que les fous, folies, donc qui font référence aux personnes souffrant de troubles mentaux. C'est dans le cadre d'objectifs de respect des droits des personnes malades, parce qu'ils ont aussi le droit d'être considérés, d'être respectés tels que des personnes, et aussi d'être acceptés comme des gens qui peuvent contribuer aussi dans la communauté.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Selon les explications que vous deux vous aviez données concernant les causes des troubles mentaux, il y a des situations difficiles que les gens peuvent traverser dans leur vie. Et actuellement, le monde entier est en train de traverser une crise sanitaire sans précédent. Quelle est l'incidence du COVID-19 sur la santé mentale des gens, Clément?
En parlant en particulier ici au Libéria, pour la survenue de COVID, nous avons remarqué qu'il a été suivi par des déterminants qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu de stress pour des populations déjà qui étaient vulnérables. Donc, il y a déjà la peur qui est là, et d'être contaminé ou de rencontrer quelqu'un qui est malade, qu'on ne connaît pas, et aussi le Covid étant une maladie contagieuse. Il y a le souci déjà de ne pas pouvoir se faire soigner ou guérir. Il y a des gens qui ont eu à perdre leurs proches, membres de famille, amis, connaissances, et qui ont décédé malheureusement à cause de Covid. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été instaurées comme des baisers les barrières qui ont fait que les gens sont limités, ils ont été isolés, ils ont resté à la maison, ils ne retournaient pas dans leur activité normale journalière où ils trouvaient quelque chose à pouvoir se souvenir chaque jour, donc au niveau économique. Donc tout ça s'est ajouté donc avec cette maladie qui est venue. D'autres conséquences, au niveau des activités, par exemple, au niveau de notre clinique, nous avons dit à fermer pendant certains moments parce qu'on ne voulait pas avoir des regroupements au niveau des cliniques et on a dit changer le programme pour l'adapter des conditions donc de mesures barrières où les patients ne venaient pas régulièrement, où on doit faire des consultations par téléphone. Donc tout ça, en fait, ça a affecté globalement nos activités et aussi les patients qui se sont laissés à eux-mêmes où ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils ne pouvaient pas bouger librement comme avant.
Sonia, dans le Sahel, quel est votre constat concernant l'incidence du Covid sur la santé mentale des habitants?
Ça nous a affectés tous. Je pense que ce n'est pas trop différent de ce que les amis et les collègues en train de parler à Liberia, ils ont vécu. C'est la même chose aussi avec nous. Ces distanciations physiques, restrictions de mouvement, les rumeurs et le manque d'informations au début aussi de la maladie, ce qui a créé toute cette détresse psychologique.
Ça a dû affecter aussi votre travail sur tous les centres où vous accueillez les malades?
Nous aussi, sur tous les projets où nous avons, on a dû s'ajuster pour pouvoir donner de l'appui, de support, déjà pour les différentes structures sanitaires où nous travaillons pour gérer ces cas de point de vue médical, mais aussi nous avons développé des lignes d'appel, lignes vertes comme on les appelle, pour que les gens posent des questions ou demandent des consultations. On a eu une bonne expérience avec le SAMU au Niger, à Niamey, avec leur ligne verte. On a fait la ligne santé mentale avec eux. Je me rappelle, à un moment, on ne peut plus recevoir de coups de fil parce qu'on recevait des centaines par jour où les gens appellent soit pour poser des questions, mais aussi appellent pour parler de leur sensation de frustration, de se sentir isolé, enfermé, emprisonné, toutes les rumeurs qui ont dans leur tête, toutes les craintes des familles sur leurs bien-aimés, surtout quand ils ont un cas positif ou un cas suspect hospitalisé ou dans les centres d'isolement Covid au début. Donc tout ça, ça affectait la population, ça affectait plus les gens qui étaient trop proches des cas positifs de Covid. Ça les a donné peur pour leurs êtres chers qui sont en train de souffrir. Mais aussi, quand tu es un cas de contact, ça augmente tout ce qui est doute et peur. Et c'était un peu généralisé.
C'est vraiment difficile. Les troubles mentaux sont encore un tabou en Afrique. Personne ne veut en parler. Personne ne veut se faire identifier. Clément, comment parvenez-vous à identifier les malades? Est-ce que les gens parfois viennent consulter de façon spontanée?
Ici, dans nos activités, 54% des patients que nous recevons viennent avec des familles ou amis. Ils sont accompagnés par les familles qui déjà les hébergent, qui vivent avec eux, ou bien qui savent que nous avons des services et ils viennent avec eux. Donc, c'est plus que le 50%. Ensuite, il y a des patients qui viennent à travers les volontaires communautaires. Donc, ce sont des personnes qui vivent dans la communauté déjà et qui ont été identifiées pour nous aider dans les activités de sensibilisation et aussi de recherche des cas actifs, comme nous les appelons. Donc, les chercher les malades qui ont déjà les symptômes de troubles mentaux et les orientent vers le service. Ceci fait à peu près 37% des patients qui nous recevront. L'autre volet d'orientation, c'est les patients eux-mêmes qui reconnaissent qu'ils ont des problèmes ou bien qu'ils ont des symptômes et qui souhaiteraient être pris en charge. Et ceci fait 5%. Le reste des patients nous arrive à travers des centres de santé qui n'ont pas de service de soins de santé mentale. mais qui sont dans les entourages, mais qui reçoivent ces patients et qui les orientent chez nous.
Si je comprends bien, vous faites aussi des séances de sensibilisation.
Donc il faut dire qu'en général, en fait, nous faisons des séances de sensibilisation et de promotion au niveau communautaire, là où nous informons les services qui existent et aussi on informe les communautés comment ils peuvent identifier quelqu'un qui a des problèmes ou des signes d'une maladie mentale et comment ils peuvent aussi le référer. Et nous pensons que ces activités de sensibilisation aussi jouent un grand rôle pour bien aider les personnes à s'orienter vers les services.
Sonia, est-ce que les choses se passent de la même façon pour vous au Sahel?
Plus ou moins, oui, c'est la même chose. Nous aussi, on a cet aspect communautaire où on travaille avec la communauté, on les forme à identifier surtout tout ce qui est leader communautaire, instituteur des écoles, les femmes qui ont certains pouvoirs dans les communautés pour identifier et référer.
Vous arrive-t-il parfois de coopérer avec les tradipraticiens?
On coopère aussi avec les tradipraticiens parce que souvent, quand vous avez bien mentionné et vous avez bien répété, c'est un tabou. C'est trop mal connu, donc à chaque fois qu'on voit une personne qui a un comportement, on va dire, bizarre, comme il le qualifie culturellement et socialement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'amène au praticien pour le soigner et d'une manière traditionnelle. Donc aussi, on coopère avec ces personnes, on essaie de les sensibiliser. Aussi, dans toutes les structures médicales, on a établi des systèmes de référencement avec les différents services de l'hôpital où nous travaillons ou qui sont aussi à notre entour pour identifier et référer les personnes ayant besoin d'appui psychologique et de santé mentale.
Aussi avec les autres. Collaborez-vous aussi avec des ONG, lesquelles?
Soit les ONG locales, soit les ONG aussi internationales qui opèrent dans la zone ou dans la région, qui n'ont pas de composante santé mentale. On travaille avec eux, on coopère, on les forme pour identifier les personnes ayant besoin d'appui psychologique, les personnes avec des troubles mentaux, et de les faire référer vers nous pour la prise en charge adéquate.
Justement, la prise en charge sera l'un des points dont nous allons discuter la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce programme. Merci Clément, merci Sonia d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, à la semaine prochaine.
Merci.
C'était notre entrevue avec Sonia Mounir et Jean-Clément Ishimwe. Sonia Mounir est la référente technique régionale en santé mentale en Afrique de l'Ouest et du Centre de Médecins sans frontières. Jean-Clément Ishimwe est le coordinateur du projet en santé mentale et épilepsie au Libéria. Nous voici aussi arrivés au terme de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Il était structuré autour des causes et des facteurs de risque des troubles mentaux. Nos invités ont aussi évoqué les formes que peut prendre la maladie. La semaine prochaine, ils seront de retour pour la deuxième partie de cette série afin de discuter, entre autres, de la prise en charge des troubles mentaux. Cette émission santé a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.